L'œuf de dragon. Dunk et l'œuf prirent congé de Pierre Moutier sous une fine averse d'été. Dunk chevauchait Tonnerre, son vieux destrier, l'œuf à ses côtés sur le fringant jeune palefroid qu'il avait baptisé Pluie, menant Mestre, leur mulet. Sur l'échine de Mestre étaient chargées l'armure de Dunk et les livres de l'œuf, leur couchage, leur tente et leurs vêtements, plusieurs pièces de bœuf salé coriace, une demi-bouteille d'hydromel et deux outres d'eau. Le vieux chapeau de paille de l'œuf, informe et large de bord, protégeait de la pluie la tête du mulet. Le jeune garçon avait pratiqué des orifices pour laisser passer les oreilles de Mestre. L'œuf arborait son nouveau chapeau de paille. Les deux trous pour les oreilles mis à part, les deux couvre-chefs se ressemblaient beaucoup, du point de vue de Dunk. En approchant des portes de la ville, l'œuf tira brusquement sur les rênes. Tout au-dessus de la porte, on avait fiché la tête d'un traître sur une pique de fer. Elle était fraîche à la voir, la chair plus rose que verte. Mais les corbeaux amateurs de charogne étaient déjà à l'œuvre sur elle. Le défunt avait les lèvres et les joues déchiquetées, lacérées. Ses yeux, deux trous bruns, laissaient couler de lentes larmes rouges, tandis que les gouttes de pluie se mêlaient au sang coagulé. La bouche du mort béait mollement comme pour apostropher des voyageurs franchissant la porte en contrebas. Dunk avait déjà assisté à ce genre de spectacle. À Port-Réal, quand j'étais gamin, j'ai un jour volé une tête sur sa pique, raconta-t-il à l'œuf. À la vérité, c'était la fouine qui avait escaladé le mur pour chiper la tête, après que Raph et Boudin avaient soutenu qu'ils n'oseraient jamais. Mais lorsque les gardes avaient accouru, la fouine l'avait jetée en bas et Dunk l'avait rattrapée. C'était un seigneur félon, ou un chevalier brigand, ou peut-être un simple assassin. Une tête reste une tête. Elles se ressemblent toutes, une fois qu'elles ont passé quelques jours au bout d'une pique. Ses trois amis et lui s'étaient servis de la tête pour terroriser les filles de Cupussier. Il leur donnait la chasse à travers les ruelles et les forçait à baiser la tête avant de les libérer. Voilà une tête qu'on avait beaucoup baisée pour autant qu'ils se souviennent. Il n'y avait aucune fille à Port-Réal qui courut aussi vite que Raph. Mais mieux valait épargner à l'œuf cette partie de l'histoire. Ah, la fouine, Raph et Boudin, de vrais petits monstres ces trois-là. Et j'étais le pire du lot. Ses amis et lui avaient conservé la tête jusqu'à ce que la chair vire au noir et commence à se liquéfier. Ça avait retiré tout le plaisir de la chasse aux filles. Aussi, une nuit avait-il fait irruption dans une échoppe de soupe pour en jeter les vestiges dans la marmite. « Les corbeaux attaquent toujours par les yeux », expliqua-t-il à l'œuf. « Ensuite, les joues s'évident, la chair tourne au vert. » Il plissa les yeux. « Minute. Je le connais, ce visage. »
« Oui, da, sœur, confirma l'œuf, il y a 3 jours, le septon bossu que nous avons entendu prêcher à l'encontre de Lord Fressanglant. »
Cela lui revint. C'était un saint homme dédié aux 7 divinités, même si en effet il prêchait la trahison.
« Il a les mains rouges du sang d'un de ses frères et de celui de ses jeunes neveux aussi !»
avait clamé le bossu à la foule assemblée sur la place du marché.
« Une ombre à ses ordres est venue étrangler les fils du valeureux prince Valar dans le ventre de leur mère. Où est-il, désormais, notre jeune prince? Et où est-il, son frère, le doux Mataris? Où s'en est allé le bon roi d'Aéron et Baelor Briselance l'intrépide? La tombe s'en est emparée de tous et de chacun, et pourtant il demeure, ce pâle oiseau au bec ensanglanté qui perche sur l'épaule du roi Aéris et lui croasse à l'oreille. Il porte sur le visage et dans son orbite vide la marque de l'enfer. Et il nous a apporté la sécheresse, l'épidémie et le meurtre. Soulevez-vous, vous dis-je, et remémorez-vous notre roi véritable de l'autre côté de la mer. Il y a 7 dieux et 7 couronnes, et le dragon noir a engendré 7 fils. Soulevez-vous, gentilshommes et gentesdames. Soulevez-vous, preux chevaliers et robustes paysans, et jetez à bas, freux sanglants, cet ignoble sorcier, de crainte que vos enfants et les enfants de vos enfants ne soient maudits à jamais. »
Chacun de ces mots était une trahison. Néanmoins, Dunk était choqué de le trouver ici, des trous béants à la place des yeux.
« Certes, c'est lui, reconnut-il, et c'est une raison supplémentaire de laisser cette ville derrière nous. »
Il toucha tonnerre des éperons, et Lof et lui passèrent les portes de Pierre Moutier, en écoutant le doux babil de la pluie. « Combien Dieu, Lord Freux Sanglant, possède-t-il » disait la devinette. « 1000. » Et rien qu'un. Certains prétendaient que la main du roi était un adepte des arts obscurs, capable de changer de visage, d'adopter l'apparence d'un chien borgne, voire de se muer en brouillard. Des meutes de loups gris efflanqués traquaient ses ennemis, racontait-on, et des corbeaux charognards espionnaient pour son compte et lui soufflaient des secrets à l'oreille. La plupart de ces contes n'étaient que cela, des contes. Dunk n'en doutait pas. Mais nul ne pouvait nier que Freux Sanglant eut des informateurs partout. À Port-Réal, Dunk l'avait vu en personne, de ses propres yeux. Blanc comme l'os étaient la peau et les cheveux de Brynden Rivers. Et son œil, il n'en avait qu'un, ayant perdu l'autre aux mains de son demi-frère égracié sur le champ d'herbe rouge, son œil était rouge comme sang. Sur la joue et le cou, il portait la tache de vin qui lui avait valu son nom. Une fois la ville loin derrière eux, Dunk s'éclaircit la gorge et déclara « Sale affaire de trancher la tête de Septon. Il se bornait à parler. Les mots sont du vent. »
Certains sont du vent, sœur, d'autres sont de la trahison. »
L'œuf était fluet comme une brindille, tout en côte et en coude, mais il ne manquait pas de bouche.
Te voilà qui parle comme un vrai petit prince.
L'œuf prit cela comme une insulte, ce qui était le cas.
Il était peut-être Septon, mais il prêchait des mensonges, sœur. La sécheresse n'était pas le fait de Lord Freux Sanglant. Ni le fléau de printemps non plus.
Ce n'est pas faux, mais si on se met à trancher le col de tous les idiots et de tous les menteurs, la moitié des villes des 7 couronnes vont se retrouver vides.
6 jours plus tard, la pluie n'était plus qu'un souvenir. Dunk avait retiré sa tunique pour jouir de la chaleur du soleil sur sa peau. Quand une légère brise se leva, fraîche, douce et parfumée comme le souffle d'une pucelle, il poussa un soupir.
« De l'eau, » annonça-t-il.
« Tu la sens ? Le lac ne doit plus être loin désormais. »«
Tout ce que je sens, c'est mestre, sœur. Il pue !»
L'œuf donna un coup féroce sur la longe du mulet. Mestre s'était arrêté pour grignoter l'herbe en bord de route, ainsi qu'il le faisait de temps en temps. « Il y a une vieille auberge sur les berges du lac. » Dunk y avait un jour fait halte lorsqu'il était écuyer de l'ancien. Selon Sir Harlan, il brassait une bonne bière brune. On pourrait y goûter tout en attendant le bac.
L'œuf lui jeta un coup d'œil plein d'espoir.
« Pour faire descendre le repas, sœur. »
« De quel repas parles-tu ? »
« Une tranche de rôti, un morceau de canard, un bol de ragoût, tout ce qu'ils peuvent avoir, sœur. »
Leur dernier repas chaud remontait à 3 jours. Depuis, ils vivaient de récoltes de hasard et de tranches de vieux bœuf salé, dur comme du bois. Il serait bon de nous caler l'estomac de vraie nourriture avant de prendre la direction du nord. Il n'est pas tout près, ce mur.
Et nous pourrions aussi passer la nuit, suggéra l'œuf.
Souhaiteriez-vous un lit de plumes, messire ?
La paille me suffira bien, sœur, rétorqua l'œuf, vexé.
Nous n'avons pas les moyens de payer un lit.
Nous avons 22 sous, 3 étoiles, un cerf et le vieux grenat ébréché, sœur.
Dunk se gratta l'oreille. Il me semblait que nous possédions 2 pièces d'argent.
Si fait, jusqu'à ce que vous achetiez la tente, à présent, nous n'en avons plus qu'une.
Nous n'en aurons plus du tout si nous commençons à dormir dans les auberges. Tu tiens à partager le lit d'un camelot et à te réveiller avec ses puces ?
Dunk ricana. Pas moi, j'ai les miennes, et elles n'aiment guère les étrangers. Nous dormirons à la belle étoile.
L'étoile est belle, admit l'œuf, mais le sol est dur, sœur, et il est parfois bon de poser la tête sur un oreiller.
Les oreillers sont faits pour les princes.
L'œuf était un écuyer parfait pour un chevalier, mais de temps en temps il avait des humeurs princières.
Le gamin a le sang du dragon, ne l'oublie jamais, se dit Dunk.
Pour sa part, lui avait du sang de mendiant.
Du moins, c'est ce qu'on lui répétait au temps de Cupucier, quand on ne lui prédisait pas qu'il finirait sur l'échafaud.
On aura peut-être les moyens de s'offrir de la bière et un repas chaud, mais pas question que je dépense du bon argent pour un lit. Nous devons économiser nos sous pour le passeur.
La dernière fois qu'il avait franchi le bac ne coûtait que quelques pièces en cuivre. Mais cela remontait à 6 ans, voire 7. Tout avait augmenté depuis.
« Eh bien, proposa l'œuf, nous pourrions utiliser ma botte pour traverser. »«
Nous pourrions, mais nous ne le ferons pas. »
Il était dangereux d'employer la botte secrète. La rumeur allait se répandre, les rumeurs se répandaient toujours. Ce n'était pas un hasard si son écuyer était chauve.
L'œuf avait les yeux mauves de l'ancienne Valyria et des cheveux qui brillaient comme de l'or battu et des fils d'argent tressés ensemble. Autant porter une broche avec un dragon à 3 têtes que de laisser pousser sa chevelure. L'époque était périlleuse à Westeros et... Bref, mieux valait ne pas courir de risques.
« Encore un mot sur ta foutue botte ?» Et je te fiche une telle taloche sur l'oreille que c'est en volant que tu vas le traverser, ce lac.
Plutôt nager, sœur.
L'œuf était bon nageur, pas Dunk. Le gamin se retourna sur sa selle.
Sœur, quelqu'un arrive par la route derrière nous. Vous entendez les chevaux ?
Je ne suis pas sourd. Dunk voyait également leur sillage de poussière.
Un groupe important, hein, et pressé.
« Vous croyez que ce pourrait être dehors la loi, sœur ?»
L'œuf se dressa sur ses étriers avec plus d'intérêt que de crainte. Le gamin était ainsi.
« Dehors la loi serait plus discret. Seuls des seigneurs produisent autant de vacarme. »
Dunk secoua la poignée de son épée pour dégager la lame dans son fourreau.
« Néanmoins, nous allons quitter la route pour les laisser passer. Il y a seigneur et seigneur. »
Un brin de prudence ne faisait jamais de mal.
Les routes n'étaient plus aussi sûres qu'au temps où le bon roi d'Aéron siégeait sur le trône de fer.
L'œuf et lui se cachèrent derrière un buisson d'aubépine.
Dunk décrocha son bouclier et le glissa à son bras.
C'était une vieillerie haute et lourde, en forme d'amande, en pin cerclé de fer. Il l'avait acheté à Pierre Moutier pour remplacer celui que le double Flandrin lui avait mis en pièces durant leur combat.
Dunk n'avait pas eu le temps d'y faire peindre son orme à l'étoile filante, si bien qu'il arborait encore les armes du propriétaire précédent, un pendu en train de se balancer sinistre et gris sous un gibet. Ce n'étaient pas des armoiries qu'il aurait choisies pour lui, mais... le bouclier ne lui avait pas coûté cher.
Les premiers cavaliers passèrent au galop quelques instants plus tard. Deux jeunes nobliaux montés sur une paire de coursiers. Celui qui chevauchait le bai portait un haume en acier doré découvrant son visage, avec trois grands panaches de plumes, un blanc, un rouge et un or. Des plumets assortis ornaient la barde d'encolure de son cheval. Les talons noirs à ses côtés étaient drapés de bleu et d'or. Son caparaçon se plissait au vent de sa course, tandis qu'il filait dans un bruit de tonnerre. Côte à côte, galopèrent les cavaliers avec force, cris et rire, leurs longues capes volant derrière eux. Un troisième seigneur suivit à un train plus pondéré, à la tête d'une longue file. L'équipage comptait 2 douzaines de personnes, palefreniers, cuisiniers et serviteurs, tous au service de 3 chevaliers, plus des gendarmes et des arbalétriers montés, et 12 douzaines de chariots, lourdement encombrés de leurs armures, tentes et provisions. Accroché à la selle du seigneur, pendait son écu, orange sombre, chargé de 3 châteaux noirs. Dunk connaissait ses armes, mais d'où? Le seigneur qui les arborait était un homme d'âge mûr, la lippe amère et la mine morose sous une barbe poivre et sel coupée court. Peut-être se trouvait-il au champ de Sandreguet, se dit Dunk. À moins que je n'aie exercé dans son château lorsque j'étais écuyer de Sir Harlan. Le vieux chevalier errant avait servi dans tant de citadelles et de châteaux différents au cours des ans que Dunk en avait oublié la moitié. Le seigneur tira subitement sur les rênes, considérant le buisson d'aubépine avec une grimace. « Vous, là, dans le fourré, montrez-vous !» Derrière lui, 2 arbalétriers glissèrent des viretons dans l'encoche. Le reste poursuivit sa route. Dunk traversa les hautes herbes, bouclier au bras, la main droite posée sur le pommeau de sa flamberge. La poussière soulevée par les chevaux avait changé son visage en masque ocre rouge, et il était torse nu. Il présentait un aspect débraillé, il en avait conscience, bien que ce fût sans doute sa taille qui fit hésiter l'autre. « Nous ne cherchons pas querelle, messire. Nous ne sommes que 2, mon écuyer et moi. » Il fit signe à l'œuf d'avancer. « Un écuyer? Vous prétendez-vous chevalier ?» Dunk n'aimait guère la façon dont l'individu le regardait. Ses yeux pourraient écorcher vif un homme. Il lui parut prudent d'ôter sa main de son épée. « Je suis chevalier errant, en quête de service. Tous les chevaliers brigands que j'ai pendus en disaient autant. Vos armes pourraient se révéler prophétiques, sœur. Si, sœur, il y a bien. Un gibet et un pendu, ce sont vos armes ? Nenni, messire. J'ai besoin de faire repeindre ce bouclier. Pourquoi ? En avez-vous dépouillé un cadavre ? Je l'ai acheté, contre bonne monnaie. 3 châteaux noirs sur orange. Où ai-je déjà vu ça ? Se demanda-t-il. Avant de reprendre, je ne suis pas un brigand. Les yeux du lord étaient des éclats de silex. Comment avez-vous récolté cette cicatrice à votre joue ? Une coupure de fouet ? Un poignard ? Bien que mon visage ne soit nullement votre affaire, messire. Je serai seul juge de ce qui me regarde. Entre-temps, les 2 chevaliers plus jeunes étaient revenus au trot voir ce qui retardait leur groupe. « Ah, te voilà, Gormi !» lança le cavalier sur le chevalier noir. Un jeune homme mince et souple, au visage accore et glabre aux traits séduisants, des cheveux noirs lui tombaient, luisant sur les épaules. Il portait un pourpoint en soie bleu sombre, bordé de satin doré. Une croix engrêlée était brodée au fil d'or en travers de sa poitrine, avec une vielle dorée dans les 1er et 3e quartiers, une épée dorée dans les 2e et 4e. Ses yeux reflétaient le bleu profond de sa cotte et pétillaient d'amusement. Aline craignait que tu ne sois tombé de cheval. Clairement un prétexte, il me semble. J'allais lui laisser avaler ma poussière.
« Et qui sont ces 2 brigands ?»
s'enquit le cavalier sur le cheval bai. L'œuf se hérissa sous l'insulte. « Vous n'avez nul lieu de nous traiter de brigands, messire.
Quand nous avons vu votre panache de poussière, nous avons pensé que vous pourriez, vous, être dehors la loi. C'est pour cette seule raison que nous nous sommes cachés. Voici sœur Duncan le Grand, et je suis son écuyer. »
Les nobliaux n'y accordèrent pas plus d'attention qu'ils ne l'eussent fait au coassement d'un crapaud.
« Voilà, je crois, le plus immense maraud que j'ai jamais vu, »
affirma le chevalier aux trois plumes.
Il avait le visage empâté sous une chevelure frisée d'une couleur miel sombre.
« 7 pieds à coup sûr, j'en gagerais. Quel fracas il produira en s'écroulant !»
Dunk sentit le rouge lui monter au visage.
« Tu perdrais ton pari, » songea-t-il. La dernière fois qu'on l'avait mesuré, le frère de l'œuf, Aémon, l'avait déclaré 1 pouce au-dessous des 7 pieds.
« Est-ce là votre palefroid, sœur géant ?»
s'enquit le nobliau emplumé.
« Je suppose que nous pourrions l'abattre pour sa viande. »
Lord Aline oublie fréquemment les règles de la courtoisie, intervint le chevalier aux cheveux noirs. « Veuillez pardonner l'impertinence de ces paroles, sœur. Aline, tu vas demander pardon à sœur Duncan. »«
S'il le faut, voulez-vous me pardonner, sœur ?»
Il n'attendit pas la réponse, faisant virer son bai pour partir au trot sur la route.
L'autre s'attarda. « Êtes-vous en route vers les noces, sœur ?»
Quelque chose dans le ton de sa voix donnait à Dunk envie de courber la tête. Il résista à cette impulsion et déclara « Nous faisons route vers le bac, messire. »«
Ah, nous également, mais les seuls seigneurs ici présents sont Gormi et le vaurien qui vient de nous quitter, sœur Aline Chantecoq. » « Je suis, comme vous, un chevalier buissonnier, sans terre. Sœur Jehan le Ménétrier, m'appelle-t-on. »
C'était bien le genre de nom qu'aurait pu choisir un chevalier errant. Mais Dunk n'avait encore jamais vu de chevalier errant vêtu, armé ou monté avec tant de splendeur. « Le chevalier d'or errant, » se dit-il.
« Vous connaissez mon nom ? Mon écuyer s'appelle l'œuf. » « Heureux de la rencontre, sœur. Venez chevaucher en notre compagnie jusqu'à Mur-Blanc et rompez quelques lances pour aider Lord Burpuis à célébrer son nouveau mariage. Je gage que vous pourrez y faire bonne impression. »
Dunk n'avait pas participé à une joute depuis le champ de Sandreguet. « Si je pouvais remporter quelques rançons, nous mangerions amplement en faisant route vers le nord. » songea-t-il. Mais le seigneur aux trois châteaux sur l'écu déclara
« Sir Duncan se doit de poursuivre sa route, comme nous. »
Jehan le Ménétrier ne prêta aucune attention à son aîné.
« Je serais ravi de croiser le fer avec vous, sœur. Je me suis mesuré à des hommes de bien des pays et des races, mais jamais à aucun de votre taille. Votre père était-il grand, lui aussi ?»
« Je n'ai jamais connu mon père. »«
Ah, oh, je suis marié de l'apprendre. Mon propre géniteur m'a trop tôt été ravi. »
Le ménétrier se tourna vers le seigneur aux trois châteaux.
« Nous devrions demander à Sir Duncan de se joindre à notre joyeuse compagnie. »«
Nous n'avons nul besoin de gens de son espèce. »